Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 125e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis à 8h avec une petite sélection de l'actu, une sélection qu'on réalise ensemble avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Oui, bonjour Fasquille.
Ça va bien?
Écoute, mieux, enfin voilà, tu vois, moi j'ai commencé la semaine avec une sciatique parce que j'étais assis sur une chaise de gamer de merde, n'achetais jamais de Maxnomic. C'est ma nouvelle mission dans la vie.
C'est démolir cette marque
qui se fait passer pour la meilleure marque de trucs. C'est ma deuxième sciatique par compression, tu sais, tu te fais un hématome. Super. Sur le fondement et ça vient éclater ton nerf et donc du coup tu te fais une sciatique. Enfin genre le truc le plus con du monde. Alors attention, hein, j'y mets du mien. Hein. C'est-à-dire qu'en bon nerd, voilà, j'ai un nouveau PC, je n'écoute pas mon corps, je ne me lève absolument pas comme on dit dans tous les bouquins. Oui, il faut faire des pauses et tout. Je ne fais jamais de pause, vraiment.
Enfin,
vraiment.
Tu installes Stretchly, on en avait parlé sur Geekzone.
C'est ça, très mais bien. Je les écoute pas en fait. Quand je suis en train de faire un truc, j'en ai vraiment rien à foutre. Tu peux mettre toutes les apps que tu veux, le truc, je fais non, bah c'est super, j'irai pas en fait, parce que je veux terminer ce truc-là en fait. Donc j'ai toujours un truc à faire. Et puis, bah du coup, en plus, derrière, ça m'a fait une espèce de trauma. Donc j'ai fait un peu de fièvre, donc dans le contexte actuel,
oui,
quand tu as quand tu as de la fièvre, t'es en mode genre nah, mais je suis pas sorti les gars, c'est pas possible. Mais bon, comme il y a des éléments externes qui rentrent et qui sortent chez moi, je me suis dit non, quand même pas, mais quand même pas. En fait, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'être sous contrôle, mais je me méfie car bah voilà, j'ai les premiers potes proches qui sont malades, donc
ouais, ça commence à se rapprocher, c'est ce que j'allais dire.
C'est ça commence à pas, enfin ça m'a jamais fait rire cette histoire, mais là ça fait vraiment chier maintenant. Voilà.
Allez, on va essayer de se changer les idées du coup pendant une grosse demi-heure là, parce que vu la conduite, à mon avis, on va avoir un épisode un peu long.
Je vois pas de quoi tu parles.
Et on va commencer avec le gros morceau, le plat de résistance, parce que nous on fait pas les choses comme au restaurant, avec Doom Eternal qui a joué, ça y est,
c'est fait. Alors j'ai râlé la semaine dernière et du coup en plus il y a des gens qui sont pas parlés, donc j'ai deux clés, donc je vais voir si je peux faire gagner la deuxième.
Ah bah oui,
on va s'arranger. Oui, bah oui, il y a des choses comme ça. Mais il y en a une qui est arrivée juste aujourd'hui, donc bien à la bourre, et l'autre que j'ai eu largement dans les temps pour vous parler du jeu. Et oui, alors j'ai eu mal, hein, parce que je vais pas vous mentir, Doom Eternal, c'est le retour de la licence, mais ils ont pas oublié de mettre un peu les piments dedans. Donc vous
ça
allez,
pique, oui.
Ouais, tu sais, tu peux choisir ton niveau de difficulté, et c'est le moment où il faut être vraiment humble avec soi-même. Et il faut pas choisir un truc genre, moi je suis un bonhomme, je vais jouer dans le mode Nightmare parce que les FPS j'en fais depuis 25 ans. Alors moi j'y joue régulièrement, mais j'ai pensé à des gens qui se disent ouais, Doom vient de sortir, tout ça, ça va me rappeler ma jeunesse. Oui, mais quand même, soyez raisonnables les gars, hein, je vous dis ça comme ça, c'est pour votre bien. Donc la bonne nouvelle, c'est que le titre est vraiment aussi bon que ce qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire qu'il est largement à la hauteur, voire meilleur que son reboot de 2016, qui avait déjà créé la surprise. C'est disponible sur Xbox One, PlayStation 4, et sur PlayStation 4, c'est vraiment une bonne version. Très surprenamment, je ne sais pas où ça se dit.
Oui, ça se dit, on va dire.
Allez,
je te l'accorde.
Voilà,
je suis pas le courage d'aller vérifier là.
Maître Capello et tout. Ah bah non, il est chez lui. Bref, PC évidemment, et Google Stadia, ce qui doit être à peu près le seul jeu potable de l'offre de Google. Je ne sais pas, je ne voudrais pas. C'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dedans tout de suite. La bonne nouvelle pour Bethesda, c'est que c'est un record de vente sur Steam avec le double des ventes du reboot de 2016, mais
ouais.
On n'a pas exactement les chiffres, hein, donc ils sont encore un petit peu cachotiers, et 100 000 joueurs connectés simultanément sur Steam. Et du coup, je vais commencer tout de suite par un truc hyper important, c'est le multi, parce que les joueurs, ils sont connectés parce que tout le système de reward, etc. est synchronisé avec Steam, comme d'habitude. Mais donc, il y a un multi, et ce multi, bah en fait, c'est le truc... Oh là là, ça va être compliqué parce que j'espère que certains vont aimer, hein. Mais je pense qu'il va prendre un gros mur exactement comme celui de 2016. Alors là, ils ont tenté un truc nouveau, c'est un multi asymétrique. Donc d'un côté, vous avez un joueur qui va être le Slayer, qui donc est le personnage principal de Doom, et de l'autre côté, vous allez avoir deux démons que vous pouvez choisir dans une certaine sélection de démons, les démons principaux en fait du jeu. Et bah le but, c'est de buter les deux démons pour le Slayer, sachant que si tu en butes un et que tu attends trop longtemps, le deuxième va revenir au bout d'un moment, donc il faut que tu gères ton truc pour les mettre bien bas au niveau de la vie, les empêcher de se soigner pour pouvoir les flinguer tous les deux dans un timing le plus proche possible. Sinon, ils vont revenir et ta vie, c'est de la merde, quoi. Tu t'en sortiras jamais. Évidemment, ces démons ont des pouvoirs, il y a différents rounds, entre chaque round, tu peux avoir des pouvoirs supplémentaires des deux côtés, et tu as des spawns, donc tu as d'autres démons qui se baladent sur la carte, ce qui crée en fait une petite problématique, c'est que même si le Slayer est assez fort, si les mecs savent un petit peu jouer, et pas en étant très fort, mais pas complètement nul, les démons, comme souvent avec les gameplays asymétriques, je trouve que pour l'instant, c'est quand même pas facile de gagner en étant un Slayer. Faut vraiment être très très fort, et tout de suite comprendre comment le jeu fonctionne. Donc j'ai peur, très honnêtement, que ça ne marche pas ultra fort. D'ailleurs, les temps d'attente pour avoir une game alors qu'il y a trois joueurs sont quand même déjà un peu trop longs à mon goût. Quand tu vois le temps que tu mets pour avoir une partie de Warzone avec 150 mecs, tu vois, l'engouement n'est pas le même, on va dire. Donc voilà, ça c'est pour la partie multi, c'est évacué. Vous m'en direz des nouvelles sur le forum. Pour la partie solo, franchement, 26 ans après sa référence, parce qu'en fait, ce titre fait surtout référence à Doom 2, Hell on Earth. Et oui, c'était il y a 26 ans. Je suis désolé pour la couleur de vos cheveux.
Ouais.
je me fais du mal à moi-même là, tu vois. Et la problématique par rapport à le seul point un peu mouif, tu vois, par rapport au celui de 2016, c'est que ils ont voulu vraiment mettre en place une sorte de narration, une histoire à laquelle on pige absolument rien en fait, surtout au début, parce que t'as pas du tout le lien, donc ça fait pas du tout, c'est pas du tout la suite de l'épisode 2016, enfin pas vraiment. On t'explique pas qui te parle, où tu es, pourquoi t'es là, qu'est-ce qui se passe. Si t'as pas du tout les bases, t'es vraiment largué dans le truc, et puis du coup l'action s'interrompt assez régulièrement pour te faire ces petites cinématiques qui sont pas moches, hein, mais qui viennent un peu casser le rythme. Alors oui, c'est bien, ça permet d'aller aux toilettes comme ce que je disais tout à l'heure, c'est pas mal de se ménager des pauses, mais au niveau du rythme de l'action, je suis pas ultra fan de ça, je suis pas le seul. Après, c'est pas dramatique, hein, c'est juste que du coup, comme l'histoire te prend pas vraiment, tu t'en fous un petit peu au bout d'un moment, parce que t'as rien compris, tu vois, parce que la narration est quand même assez bizarre. C'est pas génial. Alors moi, du coup, j'ai été creusé sur Internet, sur YouTube, il y a des mecs qui ont déjà fait des vidéos, je vous linkerai sur le forum, si vous êtes sage, une vidéo de 6 minutes qui explique un petit peu tout, vraiment tout le lore qu'il y a dans cet épisode.
Les bases,
alors c'est pas inintéressant, mais très honnêtement, même maintenant, c'est bon, je sais pourquoi on est là, je sais de quoi ça parle, et je vous le dis, hein, on s'en fout en fait, hein, c'est vraiment pas, c'était pas utile. Donc bref, en termes de gameplay et en termes de jeu, tout le reste est magnifique. Alors techniquement, c'est ultra bien chiadé, ça tourne vraiment très très bien. Sur PC, même sans avoir des machines de guerre, ça tourne ultra bien. C'est beaucoup plus beau et beaucoup plus varié que l'épisode de 2016. Il y a des structures gothiques, des méga structures même, qui sont vraiment magnifiques. On a une ambiance bien plus intéressante et bien plus variée. Niveau musique, c'est pareil, hein, il y a du métal qui tape, mais il y a aussi, quand on est dans certaines zones un peu plus calmes, des chœurs un petit peu glauques, tu vois, ouais, qui s'élèvent. T'es là genre, les gars,
je vais rallumer les lumières, moi.
Voilà, exactement. T'as des trucs qui sont un petit peu rigolos, parce que t'as des secrets partout dans les niveaux. Ouais, les niveaux sont vraiment très, très riches. Et t'as des vinyles à récupérer. Et en fait, c'est les vinyles de bande-son de vieux jeux de ID Software. Et du coup, tu peux te remettre des vieilles musiques de Doom, des musiques de trucs qui sont vraiment très, très moches. Et alors, du coup, vous éloignez pas trop, parce qu'en fait, la musique joue tant que vous êtes pas barré dans une nouvelle mission, soit jusqu'à ce que vous disiez stop en fait. Donc écoutez là 3 minutes, mais au bout d'un moment vous allez voir, vous allez avoir envie de réécouter les chœurs et la bande la bande son classique du jeu, parce que c'est un petit peu difficile en fait finalement. Le seul truc donc que je retiens d'un côté gameplay qui m'a vraiment saoulé, c'est qu'il y a une énorme partie, un peu trop à mon goût, il y a une grosse partie Mario, c'est-à-dire une grosse partie plateforme, avec une gestion des sauts et des dashs, donc tu peux dasher en avant dans cet épisode.
Ouais, ouais, ouais.
Et tu peux t'accrocher sur certaines parois, donc du coup, t'as des moments où t'es dans des zones où tu comprends pas du tout où il faut aller, bon, très bien, tu cherches, tu vas finir par trouver, parce que le level design est très bien fait, mais il est pas fait non plus pour vous planter. Et après, c'est de l'exécution, et trouve pas ça intéressant en fait dans un Doom. C'est dommage parce que tout le reste est fantastique. Alors sur les combats, c'est un fast FPS. On est vraiment là, il est pas plus rapide que celui de 2016, je dirais, mais on est vraiment dans un FPS extrêmement rapide où il faut comprendre les patterns très rapidement justement de tous les monstres pour pas se faire massacrer. Et vous allez voir certainement des gens râler sur le manque de munitions, etc. C'est qu'en fait t'as une boucle de gameplay qui est hyper bien pensée, mais qui est extrêmement exigeante. Il va falloir buter les monstres, certes, mais il va falloir jouer de la tronçonneuse aussi. Tronçonneuse qui est une des armes que vous avez tout de suite avec vous dès le début du jeu. Et en fait, en fonction de ce que vous avez fait au monstre, est-ce que vous l'avez mis en feu, est-ce que vous l'avez tronçonné direct, etc., etc., vous allez lui faire dropper des choses qui vont vous permettre de vous remettre des boucliers, des munitions, etc., etc. Et évidemment, chaque monstre va dropper des choses différentes. Et en fait, il faut jouer avec ça en permanence. Les glory kills qui est arrivé dans l'épisode de 2016 et les espèces de petites animations qui vont permettre de faire un finish move sur un monstre, c'est pareil, ça va vous permettre d'avoir des choses qui vous permettent d'avancer dans l'aventure en fait. Donc si vous vous contentez de tirer sur les monstres de loin et puis en vous disant je vais me planquer et puis je vais faire droite gauche pour éviter les tirs, ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est impossible, il faut aller au contact, il va falloir faire le tour pour aller choper certains strums. Tu ne peux pas être dans une position statique et puis avancer on va dire de manière posée, parce que déjà en plus les monstres visent beaucoup trop bien, donc t'es obligé d'être en mouvement tout le temps, c'est fait pour. Mais si tu t'apprends pas en fait à gérer cette boucle de gameplay et à récupérer des stuffs au-delà de ce qu'il y a sur la map posée, c'est la merde. Donc après, je vous passe les classiques, hein. Vous pouvez débloquer plein de pouvoirs, vous pouvez débloquer plein de choses sur les armes, donc ça varie les plaisirs évidemment. Les pouvoirs du personnage, il y en a plein, mais tu peux pas les activer tous en même temps, donc ça t'oblige à changer ton style de jeu. Donc il y a vraiment beaucoup de bonnes idées, le jeu est extrêmement riche, il y a aucun problème, mais les deux choses à retenir, c'est que vous pouvez peut-être faire une allergie au côté plateforme, vous pouvez peut-être prendre un mode de difficulté trop élevé pour vous. Mais sinon, le titre lui-même est vraiment difficile à prendre en défaut. Le multi est juste anecdotique à mon sens. Hein. Si vous me prouvez le contraire, je serais ravi d'avoir tort sur cette histoire. Un Doom en multi, moi, c'est ma jeunesse, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je vous link le test très très complet de la Minodus sur Gamekult, qui lui a collé un 9 sur 10, qui à mon avis absolument pas démérité. Et je vous laisse vous amuser avec ça. Et moi, en tout cas, je regarde depuis le début de la semaine les gens sur le Discord de Geekzone pleurer du sang. en essayant de terminer le jeu avec des modes de difficulté qui font qu'ils perdent pas la confiance et le respect qu'ils ont en eux. Et c'est très, très drôle. Surtout quand vous allez rencontrer une bestiole qui s'appelle le maraudeur. Je ne vous en dis pas plus.
Allez, on reste dans les jeux qui boostent l'adrénaline. Enfin, je déconne. Et non. Dangerous.
Ah, ça booste l'adrénaline quand tu plantes ton vaisseau et que tu viens de perdre quelques millions de crédits.
C'est pas faux.
L'adrénaline. Moi, j'ai eu de l'adrénaline dans Elite Dangerous en allant arriver sur une base avec, tu sais, là, le cockpit explosé et ton perso qui fait genre. Et tu vois ta jauge d'oxygène, tu fais genre merde.
Non, j'étais moqueur. Mais donc il y a des news de ce côté-là.
Ouais, écoute, on a tendance à penser qu'ils sont en train de mourir et tout. Pas du tout. Hein. Effectivement, Frontier Development a beaucoup de projets en ligne de mire. Et ils ont pas autant de choses qu'on aimerait en développement du côté d'Elite Dangerous, mais ils avaient attaqué un gros morceau qui s'était fait un petit peu, comment dirais-je, reporté violemment, parce qu'il y avait plein de problèmes à gérer autour de ça. Et ce sont les fleet carriers. Les fleet carriers, c'est l'espèce de porte-avions, c'est les énormes vaisseaux façon Star Wars, duquel vont pouvoir partir des plus petits vaisseaux, c'est-à-dire tous les autres. Et donc, ces trucs ont enfin un prix, ce qu'on attendait depuis très longtemps. Donc, le tarif de vente de la bestiole, ça va être 5 milliards de crédits, les gars. Alors, ça fait beaucoup comme ça, et c'est beaucoup, je vais pas vous mentir, mais pour les joueurs réguliers d'Elite Dangerous, ça va. Mais la petite blague, c'est que ça, 5 milliards, ça doit être comme pour les autres vaisseaux, c'est le prix d'achat. Et après, il faut mettre des trucs dedans qui soient pas pourris, en fait. Parce que généralement, on vous le vend, mais un peu comme certaines voitures, tu vois, sans option. Et quand tu rajoutes les trucs indispensables pour pas que ça soit de la merde, et ben d'un coup, ça vaut 50 milliards. Donc écoutez, je ne connais pas le Delta sur cette version-là, mais ça risque d'être violent. C'est un vaisseau qui va avoir 16 pattes d'atterrissage, donc tu vas pouvoir avoir 16 vaisseaux qui atterrissent sur ton truc, donc inviter tes potes et faire une grosse sauterie. Pas maintenant, en ce moment, c'est interdit, je vous rappelle. mais vous pourrez le faire virtuellement, voilà. Et de différentes tailles. Donc, tu peux avoir des petits vaisseaux jusqu'au gros vaisseau, enfin, les anciens plus gros vaisseaux du jeu, qui maintenant sont d'une taille ridicule. La bestiole va faire des sauts de 500 années-lumière. Alors, ça va bouffer en carburant, les gars. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 10 fois ce que fait un vaisseau un petit peu optimisé actuellement. Donc, c'est beaucoup. Donc, le but du jeu, c'est de pouvoir les emmener dans des coins un peu paumés et en faire des espèces de stations de ravitaillement. Parce que bah, la blague, c'est que ce truc-là va continuer de vous cramer de la thune en permanence une fois que vous l'avez acheté. Et oui, parce que ça consomme du carburant, les mecs. Hein. C'est pas gratuit d'entretenir un engin pareil. Donc, vous allez avoir une espèce de taxe, si tu veux, et si tu t'en occupes pas, et si tu, genre, tu te déconnectes et tu payes pas ta taxe d'entretien hebdomadaire, qui va, t'as les salaires de l'équipage, etc., que tu ne vois pas, mais que tu vois bien sur ta feuille de paye, enfin, sur ton petit tableur in-game, tu risques d'avoir des problèmes, et jusqu'au moment où, potentiellement, si t'as une dette persistante trop élevée, tu vas te retrouver avec un truc qu'on va venir te piquer et on va te le revendre en pièces détachées. Tu seras bien deg. Donc, la chose sera présentée en entier le 2 avril à 20h sur le stream de Frontières, enfin sur leur chaîne sur Twitch. Et la bêta sera dispo à partir du 7 avril pour les plus riches d'entre vous. Parce que, 5 milliards. Après, je sais pas, dans la bêta, est-ce que ce qui te file un petit porte-monnaie, tu vois, gratuit. Non, clique ici, on te le donne directement. Pas de problème. Ça sera peut-être le seul moment, s'ils font ça, où je pourrais voir le truc in-game. Parce que je peux l'acheter, hein, techniquement. J'ai les sous, oui. Mais je peux pas l'entretenir, je pense. Puis surtout, je joue pas assez pour l'entretenir en ce moment. Mais j'ai envie de voir comment ça va se passer. En tout cas, il y aura plein de gameplay qui vont se créer autour de ça. Car Elite, c'est vraiment un jeu bac à sable. Même s'il y a plein de missions, etc. C'est vraiment les joueurs qui font leur propre histoire. Le gros du storytelling du jeu. Donc, on verra ce que ça donne. Écoutez, très rapidement. Mais j'aimerais bien que Frontières s'active un petit peu plus sur ce titre.
Et puis tu voulais nous reparler d'Hitman 2 ?
Bah ouais, parce qu'en ce moment on est un peu bloqué et du coup il y a plein de jeux. Voilà, donc il y a plein de jeux qui sont gratuits disponibles un peu partout. Tout le monde y va de son initiative de je vous donne des levels, le jeu est gratuit pendant tant de temps, le jeu est en réduction, etc., etc. IO Interactive en fait a amorcé le truc en donnant le premier Hitman, en tout cas la saison 1, pas tout le Hitman 1. Le problème c'est qu'ils ont balancé que 47 000 clés Steam et que leur site web était pas prêt. Je vous le dis tout net, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai voulu aller voir le truc, il était complètement explosé, ça a été le rush directement. Donc moi, je voulais vous rappeler qu'en fait, vous pouvez faire toutes les missions du 1 dans Hitman 2, qui est disponible gratuitement pour faire les toutes premières missions, et ensuite vous achetez, c'est un jeu à épisode en fait, et vous achetez les missions séparément, ou vous pouvez acheter des packs. Alors oui, il y a des packs à 90 balles, mais ça sera peut-être les meilleurs 90 balles que vous aurez dépensées de tout le confinement, j'ai envie de dire. C'est pour moi, je me suis remis dessus, hein, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, et je trouve vraiment que le jeu tourne toujours aussi bien, il est toujours aussi intéressant, il y a toujours 1000 façons de faire une mission, y compris les plus crades, comme généralement celle que je fais en premier avant d'essayer de réfléchir. Et c'est à ce prix-là, écoutez, vous pouvez essayer évidemment de choper une clé gratuite. Je sais pas si les 47 000 seront partis d'ici demain, parce que là on enregistre, il est jeudi soir, vous le savez. Mais écoutez, est-ce que ça sera encore dispo vendredi ou quand vous écouterez ce podcast, je ne sais pas. Mais ne soyez pas trop deg et allez voir ce qui est disponible sur Steam de ce côté-là. Ça reste une sacrée licence.
Et puis, autre grosse sortie de la semaine, on en a entendu beaucoup parler sur Twitter.
Voilà, parce que tout le monde n'est pas trop client de Doom Eternal, tu vois. Il y a des gens qui préfèrent se mettre avec leur Switch sous la couette et faire pousser des trucs et filer de la thune à Tom Nook, cet escroc. Donc évidemment, je peux parler d'Animal Crossing New Horizons qui fait un carton sur Switch. Alors évidemment, c'est hyper drôle parce que les ventes de Switch et du jeu ayant explosé alors qu'il y a les annonces pour la PS5 et la nouvelle Xbox, tu vois, à coup de ray tracing et trucs de taré. Non, mais Nintendo en a rien à foutre. Hein. Ils te vendent un truc dégueulasse avec 3 polygones et ils comptent les billets. Donc on est quand même à 1,88 millions d'unités au Japon pour la première semaine.
Pas mal.
Mais une branlée pour tout le monde. J'ai pas d'autres mots. Hein. J'aurais pu être poli, mais j'ai pas envie. C'est le meilleur démarrage de la série, donc des Animal Crossing. C'est le meilleur démarrage de la Switch devant toutes les autres licences que vous avez en tête, là. Et c'est le meilleur démarrage de l'histoire de Nintendo, hors Pokémon Black and White, je crois. C'est donc juste du n'importe quoi. On est sur un record. La machine à billets chez Nintendo, elle est cassée, là, tu vois. Mec, ça, il y a beaucoup, beaucoup trop d'efficacité. Donc, ils arrivent même à dépasser des succès genre Pokémon Épée et Bouclier, c'est quand même 1,36 million. Smash Bros Ultimate, 1,23. Tu te dis, bon, voilà, quand même, c'est un figurant, 1,23, faut y aller. Hein. Donc, non, c'est solide. Bon, alors après, il y a des trucs dans l'histoire de Nintendo, je te dis, un Pokémon noir et blanc, c'était 2,63 millions. Je ne juge pas. C'est les Pokémon, personne ne peut comprendre. Final Fantasy 7 ou 8, pardon, c'est 2,5. Bref, il y a des trucs assez violents, mais de tout ce que je vois sur Geekzone, même des gens que je qualifierais de, comment dirais-je, pas clients au premier abord, tu vois, de la licence, se sont trouvés des excuses. Oui, mais bon, vu la période, un petit jeu calme et mignon, pourquoi pas. Et donc maintenant, ils sont tous en train d'acheter des îles, etc. Parce que je vous rappelle que Animal Crossing, c'est quand même un tuto sur le capitalisme, en vrai. C'est un truc, on vous file un crédit en arrivant sur l'île, il faut que tu rachètes tout. Donc, c'est pas très écolo, ni rien. C'est vraiment, c'est, quand tu creuses un peu, c'est assez moche, en fait, ce qui se passe. Tu te fais bolosser par un raton laveur. Mais c'est pas grave, les gens aiment ça. Donc, évidemment, allez-y. Hein. Si vous avez une Switch, si vous aimez ce genre de jeu, je vous ai linké une petite news de son ami chez Factor News. Vous pouvez, évidemment, trouver ça sur l'eShop ou trouver en magasin, pardon, désolé. Donc sur l'eShop c'est bien et télécharger ça et a priori après vous perdez votre vie, en tout cas c'est ce qu'on m'a expliqué.
Et alors du côté de Plague Inc, le jeu qui était utilisé à tort pour essayer de prédire justement l'évolution de la pandémie de coronavirus, ils en ont eu un peu marre et ils ont eu une idée assez géniale, je trouve.
Voilà, parce que les gars de chez Plague, ils sont même bannis en Chine maintenant, les pauvres. Donc ils se sont dit, mais les mecs, ok, on va changer notre mode de jeu, on va rajouter un truc où il faut empêcher un virus de niquer la planète. Donc ils ont fait un mode anti Covid-19, parce que ce jeu mobile, il a 8 ans, mais évidemment, il a jamais autant cartonné qu'en ce moment. Donc, ils se sont dit, non, on va quand même essayer de faire quelque chose dans le bon sens, et puis peut-être éventuellement pour réouvrir les vannes en Chine, parce que je pense qu'ils sont un petit peu deg. Et donc, la boîte, en prime de tout ça, Endemic, en a profité pour donner 250 000 dollars à plusieurs associations qui s'occupent justement de combattre cette saloperie. Déjà parce qu'ils peuvent, et je pense qu'ils ont jamais gagné autant d'argent en 8 ans. Et ensuite, parce que, du coup, je sais pas, ils ont peut-être des amis qui veulent convaincre, je te dis, dans un grand pays avec beaucoup d'habitants. C'est parce que depuis qu'ils sont bannis, je sens qu'ils sont un petit peu frustrés quand même, les pauvres. Voilà, si vous connaissez pas du tout, allez choper la version gratuite. C'est en fait très très drôle, mais dans le contexte actuel, forcément, c'est plus aussi drôle qu'avant. Oui. Mais bon, moi j'avais, il y a des trucs avec des missions thématiques, genre le virus de Noël. Moi j'avais fait un truc, j'avais gagné la partie, il fallait faire rigoler tout le monde. Voilà, c'était un virus qui faisait rire les gens. Et du coup, après, t'avais plein de news marrantes avec tel pays n'aime pas le rire, arrêtons les Pères Noël, machin. Enfin, ça partait en sucette totalement. Donc il y a plein de trucs thématiques comme ça et tu en as de plus en plus quand tu achètes la version complète du jeu, évidemment. Sinon, il faut se contenter de ce qui est disponible à un instant T.
Et puis on termine cette section gaming avec de nouveau une vague de nostalgie.
Ah là là, les petites consoles mini. On nous fait acheter ça des continue. Boîtes plastiques, c'est pas ça. Terminé. Il en manquait une, et il manquait la meilleure à mon sens. Ça y est, c'est fait. C'est la PC Engine Mini qui est disponible, alors qui va l'être, parce que moi j'ai regardé, il n'y en avait pas beaucoup dans les magasins que je fais. Surtout qu'en ce moment, c'est encore plus compliqué. Je voulais juste dire bravo à Puyo qui a quand même fait le titre le plus facile possible sur cette console, c'est une console qui était fabriquée par NEC et donc il a titré le NEC plus ultra des mini consoles. Point d'interrogation. Je suis obligé de, tu vois. Voilà.
Slow clap.
Il y a rien à dire. Non, mais en même temps, il fallait la faire. Tu vois, c'est pas possible de pas la faire. Bravo. Et donc, je vous ai linké la news de Gamekult qui liste les jeux dispo dans la version européenne, dans la version dispo au Japon, histoire de criser sur les trucs qui ne sont pas disponibles, justement. C'est une version, donc cette mini console, hein, je vous explique pas le concept, hein, c'est une version miniaturisée de la console qui était sortie à la fin des années 80. Ils ont fait quelque chose de très sympa au niveau émulation, avec une gestion de plein de choses, genre le bruit quand tu insères une cartouche, etc. C'est beaucoup plus complet que ce qu'on a pu voir par ailleurs. Coucou la mini PlayStation de merde. Donc là, ils ont vraiment soigné l'objet, c'est très très bien fait. Sur les 50 jeux, 26 jeux PC Engine, qui est donc la version japonaise, tu as 24 jeux TurboGrafx-16, qui est la version en version anglaise, et tu as des titres qui sont en japonais et en anglais, donc tu peux changer la langue avec un menu une fois que tu es dans le jeu. Il y a une première problématique, c'est qu'elle coûte 109 €,
oui.
Ce qui est assez cher pour un produit de ce genre. Maintenant, il y a plus de jeux et elle est mieux fichue que plein d'autres machines, donc ça se défend. Un truc très con, mais les câbles pour la manette, alors il y a une seule manette de fournie, mais elle a un câble qui fait 2 mètres. Donc, ceux qui ont joué avec les câbles de 50 cm de la version Nintendo, seront un peu plus à l'aise, on va le dire. La problématique, c'est qu'il faut aimer les shoot'em up, parce que c'était une console qui était vraiment très axée shoot'em up, en tout cas qui avait des très très bons titres dans cette catégorie, et comme toutes les machines avec des catalogues un peu variés et touffus, comme c'était le cas de cette machine, même si elle a pas eu le succès qu'on aurait voulu en Europe, il y a toujours des problématiques, il y a toujours des choix à faire, et moi en tout cas j'étais client pour la première fois depuis le début de cette vague, parce que j'adore cette machine, j'ai même la NEC PC, enfin moi j'ai la version portable à la maison, qu'il faut que je fasse réparer d'ailleurs, si vous savez souder des trucs bizarres, envoyez-moi des messages sur le forum s'il vous plaît, parce que il faut que je la fasse réparer, elle est en train de crever, et les condensateurs vont à mon avis finir par bousiller la machine avec leur fluide acide sur la carte mère, ça va pas me faire rire, mais j'ai un problème donc du coup avec cette PC Engine Mini, c'est que y a pas Final Match Tennis les mecs. Il y a pas Final Match Tennis, et si vous avez joué une fois Final Match Tennis, vous savez que c'était le jeu à mettre, mais bon, alors oui, après il y a une seule manette, donc tu vois, ils se sont dit on va frustrer les gens, j'imagine.
Ouais,
ce qui est pas faux, mais c'est pour moi la même raison de rester sur mon émulateur Raspberry Pi tranquillement avec ma manette sans fil justement. Et d'être tranquille au fond de mon canapé. Mais voilà, je vous laisse la news de Pouillou. Vous allez voir toute la liste de jeux qui est dispo. C'est assez impressionnant. Il y a évidemment tous les trucs classiques des émulateurs avec les modes d'écran un petit peu sympas, les modes avec Skyline, sans Skyline, etc. Et ils ont vraiment chiadé l'interface pour le coup. En tout cas, si vous l'achetez, vous serez pas floué comme on a pu le voir avec d'autres modèles. C'est juste moi qui suis un petit peu chafouin de ne pas avoir le Final Match Tennis. Je suis pas le seul. Hein, il est cité dans le truc de Pouillou, mais Final Match Tennis, c'est le jeu sur lequel on a tout parié notre vie, en fait, dans les rédacs de jeux vidéo à l'époque. Vous pouvez pas comprendre. Hein. On faisait tous les paris, genre qui va commander la boucle, qui va sortir tout avec ce genre de truc, alors que la machine était sortie depuis des années. Hein. C'était pas du tout nouveau. Donc, je suis un petit peu triste.
Allez, on passe du côté des apps avec en vitesse une petite annonce pour nos amis d'Affinity.
Voilà, donc Affinity Photo, c'est un concurrent de Photoshop qui est mieux que Photoshop à plein de niveaux. Et Serif fait une sorte de support aux créateurs et slash de 50% les prix de tous ces softs, dont Affinity Photo, mais ils ont aussi Affinity Designer, qui est un concurrent d'Illustrator. Attention, il n'est pas complètement compatible avec, enfin, il n'est pas compatible du tout avec le format AI de base qui est propriétaire d'Adobe, hein. Je préfère le dire tout de suite. Mais il peut le lire parce que quand tu es dans Adobe, tu peux sauvegarder un fichier avec un PDF, en fait, d'un format spécifique, et qui te permet d'ouvrir ce truc-là dans Affinity Designer, mais je préfère préciser, clarifier ce point. Et Affinity Publisher, qui est un excellent logiciel de mise en page, et tout ça est à moins 50%, mais comme il est déjà à la base, il coûte que 60 balles, ouais. On est quand même sur du 27 euros pour des logiciels qui sont à mon sens ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement. Il y a même des écoles de design qui sont en train de switcher sur Affinity Photo parce que la politique tarifaire d'Adobe commence à taper sur le système de pas mal de monde. Donc voilà, c'était moment de changer, et j'en précise que si vous avez un iPad Pro, Affinity Photo vaut 10 balles dans le store Apple, et c'est le meilleur soft de retouche d'image que vous pouvez avoir devant même mes chouchous habituels genre Pixelmator, donc foncez.
Et moi, je voulais parler très rapidement d'un petit bundle chez nos amis d'Humble Bundle. C'est un bundle Music Producer.
Yay.
Donc voilà, c'est un bundle qui a été réalisé en partenariat avec Applied Acoustic System, qui sont donc des développeurs de plugins, donc d'instruments et d'effets virtuels. Alors, il y a des packs de loops, il y a des instruments, il y a des effets, et il y a notamment Strum Session, qui est un plugin de guitare acoustique basse virtuelle, Lounge Lizard Session, qui est un piano électrique, et Ultra Analog Session, qui est un synthé virtuel. Alors, c'est pas le bundle du siècle, mais si vous faites de la prod, vous pouvez tout avoir pour 17,50€. Donc vous avez les softs plus des loops, tout ça dans votre bibliothèque pour faire mumuse. Moi je dis c'est toujours ça de prix, donc je voulais en parler très vite. Traînez pas, c'est valable que pour 19 jours encore. Donc c'est sur Humble Bundle, c'est le Bundle Music Producer. Et puis toi tu voulais parler d'un outil qui pourrait nous servir en ces temps un peu difficiles.
Voilà, parce que tout le monde est en train de faire la promo de Zoom pour vos vidéoconférences.
Non,
Zoom...
on n'y allait pas.
Alors bon, Zoom c'est effectivement très pratique, mais c'est aussi une boîte qui monite beaucoup de choses quand vous vous en servez, je vais pas non plus trop taper là-dessus parce que le truc que je voulais remettre en avant, il est fait par Cisco, et Cisco c'est pas non plus
les cadors du
oui. Voilà, tu vois, c'est pas les mecs qui font genre nous la vie privée c'est hyper important. Non, ils sont plutôt là pour la vie de votre manager, pas la vôtre, mais en tout cas ils ont un produit qui est également gratos actuellement, c'est Webex, et en fait il a un intérêt par rapport à Zoom actuellement, c'est que ils acceptent, si j'ai bien compris, autant de personnes, mais il n'y a pas de limite de communication, en tout cas pas en ce moment, puisqu'ils ont décidé d'ouvrir les vannes un peu plus que Zoom, parce que Zoom, je vous rappelle que les réunions sont limitées à 40 minutes. Alors oui, ça peut être pris comme une feature. Hein.
C'est ce que j'allais dire.
Parce que les réunions de plus de 40 minutes, personne ne veut en faire, mais comme actuellement, bah, là, au moment où j'enregistre ce podcast, je connais quelqu'un qui est en train de faire son cours de yoga, slash, je sais pas quoi, dans la pièce d'à côté, via Zoom, comme plein de gens, en fait, parce qu'il y a plein de profs pour tout ce qui est pilates, yoga, etc. D'ailleurs, c'est du pilates, pas du tout du yoga. Pardon, je suis désolé. Mais bref, vous voyez l'idée, il y a plein de cours comme ça, de sport en général, qui sont passés de la version « je vais en salle » à la version « je trouve un coin chez moi pour pouvoir faire ça », et je me mets en webcam et je me fais corriger à distance, et puis bah ça se passe pas si mal finalement. Donc le truc d'avec Webex, c'est que bah les personnes qui sont en train de faire ces cours ne sont pas obligées de payer ou d'acheter un truc chez nos amis de chez Zoom pour pouvoir faire ce truc là sans être bloqué au bout de 40 minutes ou une demi-heure. Non, je crois que c'est 40 minutes.
Donc oui, c'est 40 minutes,
voilà, c'est bon à savoir. Je vous mets le lien dans le billet qui accompagne ce podcast. Donc attention, hein, c'est pas du tout le seul, il y a Jitsi aussi, il y a plein d'autres choses qui sont disponibles sur le marché, mais en ce moment, Webex, c'est une grosse boîte avec des grosses capacités, donc je préfère recommander les trucs qui risquent pas d'exploser, si d'un coup, ils sont populaires, tu vois. C'est la courbe de Zoom actuellement, c'est la fusée Ariane, donc tout le monde est dessus, les autres aussi sont en augmentation, les Slack, tous les outils de travail collaboratif sont en train d'exploser, mais Zoom, c'est n'importe quoi. Donc, je sais pas jusqu'à quand ça va tenir, en tout cas, je préférais vous donner des alternatives.
Allez, on passe du côté de la culture. En ce moment, comme on est coincé chez soi, on regarde des séries télé. Il y en a une nouvelle qui vient de sortir. Là, c'est une mini-série. Ça s'appelle The Plot Against America. Et c'est la nouvelle mini-série du binôme David Simon et Ed Burns, qui était déjà responsable de The Wire. Donc, c'est basé sur le roman du même nom.
Ça va, c'est un bon CV.
C'est un bon CV. C'est basé sur le roman du même nom de Philip Roth, sorti en 2004. C'est diffusé pour le moment sur HBO depuis le 16 mars dernier. Et donc, ça nous raconte l'histoire, une histoire qui se passe dans une réalité alternative, en fait, où on suit la vie d'une famille ouvrière juive dans le New Jersey aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, et une version alternative de notre histoire où, grosso modo, Hitler botte des culs un peu partout en Europe et où les Alliés sont largement dominés. Donc, le climat est pas tout à fait le même, on va dire. Ça a une petite incidence sur la vie de tous les jours, surtout pour une famille juive, surtout qu'aux États-Unis, on est en pleine campagne électorale pour la présidence et le nouveau candidat des Républicains, c'est le très populaire Charles Lindbergh, l'aviateur, donc qui était aussi a priori un gros sympathisant nazi. Donc voilà, ça te donne un peu le climat de cette série. Alors il y a évidemment beaucoup de résonance avec notre cher 2020 à nous, hein, on va pas se mentir. Et forcément, c'est du Simon and Burns, donc c'est du tout bon. Pour le moment, il y a 2 épisodes. La mini-série devrait en compter au total 6, donc ce sera assez bref. Et il y a un chouette casting aussi, puisqu'on y croise Winona Ryder, Zoé Kazan ou encore John Turturro. Donc voilà, c'est à regarder. Je pense que si c'est sur HBO, à mon avis, ça devrait être disponible sur OCS en France.
C'est possible.
Et puis je voulais recommander très vite en speed quelques séries, si vous savez pas trop quoi mater pour le moment, des séries dont on a déjà parlé ou dont on n'a pas encore parlé. Better Call Saul, c'est la 5e et avant-dernière saison en ce moment du spin-off de Breaking Bad, chapeauté par Vince Gilligan et Peter Gould. Je voulais vous recommander également la saison 2 de Black Monday qui vient de commencer. Donc c'est cette série avec Don Cheadle et Regina Hall autour du monde de la finance en plein post-crash de 1987. Devs, dont on a déjà parlé aussi, mini-série de science-fiction d'Alex Garland sur FX Hulu, 8 épisodes, on est en 5e là et c'est toujours aussi bien. The Outsider, mini-série de Richard Price sur HBO, adapté d'un roman de Stephen King, terminé pour sa part. Il y a 10 épisodes dispo, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Si vous aimez les trucs un peu fantastiques, horreur, mais qui fait pas particulièrement peur. Enfin, je dis ça pour les gens qui aiment pas les jumpscares et compagnie, c'est pas du tout dans cette veine-là. Je recommande chaudement. Et puis, en vitesse, Westworld saison 3, la série de Jonathan Nolan qui vient de reprendre.
Ouais. What?
Sur HBO aussi. Et il y a 2 épisodes pour le moment. Et pour le moment, je me fais un peu chier.
Ah non, parce que on avait dit non pour la S2. Donc, je suis hyper étonné de ta recommandation.
Écoute, je m'étais bien emmerdé pendant la saison 2, mais je me suis dit, ils ont changé de contexte. Ils sont dans la ville, etc. Peut-être que ça va apporter des trucs. Et le premier épisode était pas mal. Le deuxième, ils m'ont déjà un peu perdu. Donc, voilà. Mais bref, je voulais en parler parce que je sais qu'il y a des gens qui sont fans. Donc voilà, plein de séries à regarder si vous savez pas trop quoi faire.
The Expanse.
Oui, The Expanse. Bon, ça date un peu plus déjà, mais c'est, ouais, c'est vrai. Si vous l'avez pas maté encore, faites-le. Allez, on passe du côté de la tech pour terminer avec nos amis de Nvidia.
Ouais, une toute petite section tech pour vous annoncer un truc que d'habitude j'en parle pas parce que c'est pas non plus passionnant. Mais là, Nvidia vient d'annoncer un truc qui s'appelle le DLSS 2.0. Alors là, tu te dis, super café. Ben, écoute, je suis hyper content. Pourquoi? C'est un truc qui était dans sa version 1.0, je ne vais pas vous mentir, de la merde.
C'est de la merde!
En tout cas, le concept est hyper intéressant, mais le résultat était pas terrible. La version 1.0, c'était quand tu l'activais, tu relançais ton jeu et tu te disais, mais pourquoi tout est flou? Pourquoi tout est moche? Pourquoi j'ai activé ce truc-là? Alors, DLSS, ça veut dire Deep Learning Super Sampling. Mais en gros, l'idée, c'est de vous faire de l'anti-aliasing de très bonne qualité à très bas coût pour votre carte graphique et votre machine. Et donc, du coup, pour ça, on fait appel à, attention, le Word, the Mega Word, à l'intelligence artificielle.
Ah, ça faisait longtemps.
Et donc, du coup, écoutez, elle était surtout artificielle, l'intelligence, dans la version 1.0, et c'était très moche. Et en plus, il fallait entraîner chaque jeu spécifiquement pour avoir cette fonction-là. C'est-à-dire qu'il fallait prendre son petit moteur qui va apprendre comme quelle gueule a le jeu pour lui faire façonner les algorithmes qui allaient être utilisés après. Donc, déjà, super chiant, tu vois. C'était pas un truc que tu peux plugger sur ton jeu, le balancer et hop, ça marche. Ce qui est problématique parce que du coup, ça veut dire du taf uniquement pour les cartes Nvidia. C'était pas forcément ultra efficace. Il y avait un problème. Mais en revanche, la méthode, elle était bonne. Donc, ils ont continué à travailler. Cette version 2.0 est défonce. J'en suis insatisfait et deux, extrêmement surpris. Parce que très honnêtement, je ne pensais pas qu'ils arriveraient à faire un truc aussi efficace. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous activez cette fonctionnalité. Généralement, elle va bloquer d'autres fonctionnalités puisque quand tu actives le DLSS, tu as d'autres trucs d'anti-aliasing qui ne sont plus disponibles, ce qui est logique. Et d'un coup, tu as finalement la même image, mais avec un jump de performance assez violent puisque ton ordinateur ne calcule que ce qu'il lui faut calculer. Et comme j'ai vraiment pas envie de vous expliquer comment ça marche dans un podcast sans support visuel, c'est une tannée, je suis obligé d'entrer dans des métaphores pourries et tout, c'est pénible. Donc je vous link pour la deuxième fois cette semaine un petit papier de Factor News qui, eux, contrairement à nous, ont vachement plus travaillé sur le côté écrit de leur site, qui est pas très long en plus, ils ont fait simple, hein. Ils ont pris les bonnes vidéos et ils ont été très très succincts, c'est pour ça que je vous link celle-là. Même si vous êtes nul en tech, vous allez comprendre en trois paragraphes pourquoi c'est bien et pourquoi ça va valoir le coup de l'activer. Alors la problématique, c'est que c'est quand même une fonction qui nécessite un peu de taf du côté des devs, même si maintenant il n'y a plus besoin d'entraîner le moteur avec des jeux spécifiques. Donc pour l'instant, la version 2.0 est disponible uniquement sur des trucs genre Deliver Us the Moon, super, Wolfenstein Youngblood, qui est celui sur lequel je l'ai testé, et le résultat en 2560 par 1440 en termes de perf est assez violent. C'est-à-dire que là, je mets tout à fond, mais vraiment tout à fond, hein. RTX on, comme disent les gars. Et je suis à minimum 130 FPS sur mon nouveau PC, tu vois, le truc. Et puis mon processeur rigole, hein, il n'y a rien à faire. Donc c'est vraiment, vraiment très efficace. Et puis en plus, c'est une version Vulkan. Enfin bon, ça fonctionne en plus avec Vulkan, donc tout va bien. T'as MechWarrior 5 aussi, Mercenaries, qui est dispo. Et il y aura un patch qui m'intéresse, c'est là que je regarderai. Je vais réinstaller le jeu pour tester ce patch, qui est Control, qui va disposer de ce truc-là le 26 mars. Et c'est d'ailleurs dans Control où j'avais été extrêmement déçu par le DLSS 1.0 qui vraiment bousillait la qualité d'image. C'était vraiment pas beau. Et après, c'était pas le jeu le plus facile parce que pour ceux qui ont joué à Control, vous savez à peu près, il y a des effets graphiques un peu barrés tout le temps. Et je pense que le moteur d'intelligence artificielle, pour savoir quel pixel je dois lisser, là, c'est le bordel. C'était pas le jeu le plus simple pour lui. Hein. Alors, là, concrètement, ça va être le vrai test pour le 2.0. Ça va être ce jeu-là. Donc, rendez-vous le 26 mars pour voir si ça marche. Et évidemment, il faut télécharger les derniers pilotes pour que ça soit disponible. Derniers pilotes qui, d'ailleurs, ont déjà un hotfix qui n'a rien à voir avec le DLSS, d'ailleurs. Mais faites gaffe parce que le site risque de vous proposer des points 75 et c'est les points 78 qu'il faut aller choper. Et ils sont pas forcément disponibles quand vous faites la recherche classique. Ils ont eu un petit bug sur cette version-là. Voilà, et c'est tout pour moi.
Et bien du coup, c'est la fin de ce 125e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, on va essayer de rester chez soi pendant le week-end, hein, comme ces derniers jours, finalement.
Je vois pas de quoi tu parles. Pas de grosse merguez partie. Qu'est-ce qui se passe?
Pas d'apéro mix. Hein.
C'est pas grave, parce que là, tu vois, je regarde mon backlog, en fait, hein, depuis l'annonce de ce truc-là. Déjà, je vous avoue qu'effectivement, ma vie est quand même, tu vois, plus proche de la version confinement que de la version de celle des gens qui sortent sans arrêt. Hein. Mais mon backlog, il descend pas pas ultra vite finalement, donc pour l'instant tout va bien, mais comme tu disais tout à l'heure hors antenne, il y a un moment où ça va être saoulant, je ne vous le cache pas.
Allez, tenez bon et puis on se retrouve la semaine prochaine, ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés
et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.